Afed.
Notre ami Afed. On va commencer par se présenter. Donc voilà. Ancien prisonnier.
Oui.
Voilà. Futur prisonnier.
Il y a des chances.
Voilà. Donc, combien d'années?
J'ai fait en tout 17 ans.
Et combien d'isolement?
Jamais d'isolement.
Jamais d'isolement. Prisonnier exemplaire? Prisonnier exemplaire?
Du tout, non. J'ai été toujours en fin de peine, donc j'ai pas tellement été exemplaire, puisque sinon j'aurais bénéficié un jour ou l'autre d'une conditionnelle ou une chose comme ça. Par contre, j'ai été pas isolé, parce qu'on peut pas appeler ça isolé. Je me suis retrouvé au DPS.
Donc et plus particulièrement surveillé. Voilà.
Et j'ai fait pas mal de mitards.
Mitard.
Mais j'ai pas connu ni l'isolement, ni les QHS, ni toutes ces choses-là.
Est-ce qu'il y a une imagination possible en disant aux gens, vous allez aller en prison, donc tant que vous êtes dehors, non. Faites-vous des liens à l'intérieur.
Non, parce que le mauvais sens populaire, il y a le bon sens populaire, il y a aussi le mauvais sens populaire, est idem, c'est, ça n'arrive qu'aux autres. Donc c'est très très difficile de projeter sur l'avenir, ce que d'ailleurs l'État fait, lui, en disant, avec les peines de rétention, en disant on va les garder en prison parce qu'ils vont commettre des crimes. Bon, l'État est capable de dire, de prévoir l'avenir comme ça. Mais là, de avertir, conscientiser des personnes sur ce qui se passe à l'intérieur des prisons, parce que en 2012, 13 ou 15,
ils y seront.
On peut pas.
Non, mais en plus, c'est un peu tordu comme.
On peut pas leur prévenir cet avenir-là.
T'as les jeunes qui disent que de toute façon, ils sont de la chair à la prison.
Bien sûr.
Et
bien
ils sûr. Savent en termes de pourcentage le nombre de chances qu'ils ont d'aller à l'intérieur. En petite peine ou plus ou moins longue peine, ça dépend à l'accident, quoi.
Parce qu'eux sont déjà dans un enfermement et savent qu'ils vont passer d'enfermement en enfermement. Et que le dernier, c'est l'enfermement architectural de la prison, c'est-à-dire les murs, les barreaux, les verrous, etc. Donc ils le savent. Et parce qu'ils ont le même parcours, ou disons le même chemin que leurs aînés qui, eux, y ont été. Donc ils savent que ça passe par là. Que la prison va être une étape dans leur vie et ils sont lucides, parce qu'ils savent qu'ils sont en état de légitime défense sociale, donc ils sont dans l'obligation d'aller voler pour pouvoir vivre.
Donc est-ce que ce serait possible qu'un mouvement social puisse partir des prisons?
La prison, c'est déjà en lui-même un mouvement social. Le fait de rentrer en prison, c'est que tu as refusé quelque chose à l'extérieur.
Alors, donc, ce refus-là est déjà... Est-ce que le début d'un mouvement social révolutionnaire?
Non, parce que trop individualiste. Et chacun est dans la gestion de sa peine. Maintenant, s'il y avait une égalité dans les peines, si les peines étaient égalitaires, il pourrait y avoir. Mais là, c'est trop inégal. Un homme qui a 20 ans à faire ne peut pas, ne se révoltera pas de la même manière qu'un type qui a 2 mois à faire. Parce que le problème, il est là. Et dans les maisons d'arrêt, on ne met jamais 2 grosses peines ensemble. C'est un type qui a pris 20 ans et un type qui risque 20 ans, on ne les met pas ensemble. On met toujours quelqu'un qui a une grosse peine et quelqu'un qui en a une toute petite. Ça veut dire que, enfin... Il n'y a pas de petite peine, mais qu'un temps de prison plus court. Et ce prisonnier qui a le temps de prison plus court gère le type qui a 10 ou 15 ou 20 ans à faire. Parce qu'il lui dit, écoute, je sors dans 2 mois, fous pas le bordel parce que ça va me mettre dans la merde. Et donc quand ce type a fait ses 2 mois et qu'il sort, l'administration pénitentiaire remet une autre pseudo petite peine.
Courte peine.
Voilà, et c'est pour ça que les mecs ont des grosses peines en maison d'arrêt, des fois pètent les plombs. Et qu'il y a de la violence dans les cellules. Parce qu'il en voit passer un, il sort, un deuxième, il sort, un troisième, il sort, et le mec il devient.
Il reste.
Et le mec devient fou. Parce que la plupart du temps, quand les mecs ont des courtes peines, ils arrivent, ils n'ont rien. Donc c'est celui qui est là depuis un peu plus longtemps, qui dépanne le café, les cigarettes, le tabac. Voilà. Donc et des fois même qui donne des fringues. Alors quand il les voit défiler comme ça dans sa cellule, il devient cinglé. Dans ce cas. Il devient cinglé et. Il bataille pour être seul en cellule, par exemple, il va passer par la case mitard pour être seul en cellule. C'est-à-dire, il va faire 2 fois, 3 fois du mitard jusqu'au moment où l'administration pénitentiaire dit « Ok, on va le mettre tout seul ».
Là, par exemple, juste là pour la solidarité, par exemple, les gens qui passent ces courtes peines, qui passent et qui donc rencontrent ces longues peines, en général, il y a un suivi, ils s'écrivent, ils se parlent, il y a un peu de solidarité qui a lieu.
Très rarement.
Très rarement.
Très rarement.
Pourquoi
il y en a qui parce que le lien d'amitié se fait en lieu clos. Et c'est des amitiés pourries, obligées, et puis c'est des amitiés pourries. Le lien se fait par nécessité sur place. Bon, maintenant, il y en a beaucoup qui sortent et qui promettent. Je vais t'écrire, je vais t'envoyer des sous, des choses comme ça. Mais la plupart du temps, ça ne tient pas. Parce qu'à l'extérieur, quand le prisonnier sort et qu'il est à l'extérieur, Il est pris dans d'autres enfermements qui fait que le temps passe et puis il oublie celui qui est à l'intérieur. Voilà. Sauf quand on est affinitaire, mais depuis des années. C'est-à-dire quand on a ce qu'on appelle un principe carcéral qui est celui d'une délinquance qui n'est pas une délinquance sociale, qui est une délinquance professionnelle. On sait qu'on soutient l'autre.
Et pour d'autres détenus qui disent que s'ils n'avaient pas été en prison, ils n'auraient pas pu lire, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus. Et certains, je ne citerai pas, disent que grâce à la prison, ils ont pu comprendre plein de choses et du coup grandir. Alors que s'ils n'avaient pas été en prison, ils auraient passé leur vie à l'usine et que finalement, ils ne se seraient jamais révoltés.
Oui, mais c'est pas grâce à la prison. C'est pas grâce à la prison.
Ils auraient très bien pu se révolter à l'usine aussi.
Bien sûr. C'est d'une manière différente, oui. Mais c'est grâce aux rencontres. C'est grâce aux rencontres qu'on fait, donc c'est grâce aux autres prisonniers qu'on évolue. Il y a toujours un prisonnier qui dit tiens, prends ce bouquin, il est bien. C'est pas la prison qui te dit tiens, prends ce livre. C'est pas un surveillant de prison qui te dit tiens, tu devrais t'inscrire à la bibliothèque et aller lire un livre. Ou tu devrais t'inscrire à l'école et suivre un cours. C'est donc, les autres prisonniers qui le disent. Donc c'est pas la prison elle-même, c'est les rencontres. Et effectivement, les rencontres, tu peux les faire à l'usine, à l'hôpital, n'importe où.
Justement, par rapport à cette question, comment ça paraît possible de plus avoir peur des détenus quand on est un détenu?
Ah ben c'est les affinités intérieures qui font que t'as pas peur des autres prisonniers.
Normalement, on devrait pas avoir peur. On est dans la même. Normalement, il y a un peu le côté, on est dans la même galère qui devrait exister.
Oui, mais on a toujours peur d'une foule enfermée. C'est-à-dire même à l'extérieur, t'es pris dans un mouvement de foule, les portes sont bloquées de n'importe quoi, d'un supermarché, d'un hôpital, d'un aéroport. La foule t'effraie parce que la bousculade t'effraie. Là, c'est pas dans la prison, il y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire, si tu as un problème dans la prison, tu ne peux pas changer de trottoir, changer de quartier, déménager. Tu es avec les autres. Voilà. Et les autres créent une espèce de spirale. D'ailleurs, les prisonniers tournent en rond. Les autres créent une espèce de spirale dans laquelle tu es pris. Tu es pris, tu descends en promenade, tu vas au sport, tu es vraiment avec les autres. Et il y en a beaucoup qui sont craintifs quand ils arrivent pour la première fois en prison, parce qu'ils ont eux aussi tous les fantasmes de la prison. Par exemple, un primaire qui arrive pour la première fois en tôle, parfois il ne descend jamais en promenade parce qu'il pense qu'en promenade on va le voler, le traquer, ce qui n'est pas du tout le cas.
Ouais, bah, justement pour ça, en fait, il n'y a pas forcément toute cette haine entre détenus, non, ces bagarres permanentes,
non, parce que
ces viols dans les douches, tout
bien
ça,
sûr
c'est
que non. Mais le discours politique de l'État nous fait passer pour des barbares par rapport à ça. Ça les arrange.
Ça motive un peu plus la peur.
Là, exemple à Fleury-Mérogis, Il y a 200 prisonniers dans les cours de promenade, 200 en même temps. Ils ont parlé de l'ultra-violence dans les cours de promenade de Fleury-Mérogis. Mais ça existe depuis les années 60, Fleury-Mérogis. Et les cours sont comme ça depuis les années 60. Donc, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est faire passer le truc en disant l'ultra-violence, il faut qu'on cloisonne. Donc, on fasse des petites cours de promenade comme à Fresnes. Ça veut dire que ça va être des petites cours où les détenus seront 10 par 10. Comme à Fresnes. Ça fait, non pas pour éviter la violence entre prisonniers, c'est pour les cloisonner. Parce que 200 dans une même cour, quand ça fait un mouvement, c'est chaud. Tandis que 10 dans une courette, quand ils font un mouvement, ils envoient les iris, et puis c'est calmé ce qui se passe à Fresnes. C'est pour ça que Fresnes est une prison un peu plus dure. Beaucoup de prisonniers la redoutent, parce que c'est très cloisonné. On sort 10 par 10. Moi, j'étais en promenade, on était deux. Deux mecs.
Ça m'évite les voilà.
Donc, l'ultra-violence, c'est le discours pour pouvoir cloisonner. Et éviter parce qu'ils créent des émeutes.
Quand est-ce qu'on n'a plus peur de la prison? Faut-il avoir peur de la prison? Peut-on ne pas avoir peur de la prison?
On n'a plus peur de la prison quand on commence à savoir nager à l'intérieur. Parce qu'il y a des codes à l'intérieur de la prison et il faut les connaître. Et la manière de les connaître, c'est éviter le mitard, savoir comment être seul en cellule, savoir parler non pas aux surveillants mais aux chefs de détention. Parce que c'est les chefs de détention qui tiennent la prison, c'est ni le directeur ni les surveillants. Et t'as plus peur de la prison quand la prison t'a donné ton statut. C'est-à-dire quand t'arrives dans une prison et que les surveillants et toute la hiérarchie disent « Ouh là là, celui-là, faut pas l'emmerder ».
Et donc comment on fait, par exemple, quelqu'un qui a pas fait de prison et qui va avoir envie d'agir contre cette société et qui sait plus ou moins, effectivement, au-dessus de lui, l'épée Damoclès, de la peur de la prison? Est-ce qu'on peut dépasser cette peur sans avoir été? Dans le sens où ça vaut la peine de ne pas avoir peur, quand même.
Bah une fois que tu es dedans, une fois que tu es à l'intérieur de la prison, la peur, tu vis constamment avec. Même quelqu'un qui est dur. Même moi qui suis quelqu'un d'assez blindé, quand je suis en prison, c'est pas que j'ai peur, c'est que je reste craintif. C'est-à-dire, je suis comme un animal, aux aguets, j'ai toujours les oreilles qui bougent, j'ai toujours les yeux qui bougent, je reste craintif. Voilà. Parce que c'est un moyen de défense. C'est-à-dire, ça te prévient, c'est comme la douleur. Tu as mal quelque part, la douleur te dit, attention, tu as un problème à tel endroit, tu vas voir le docteur. Donc en prison, la crainte, elle est toujours éveillée, parce que c'est un instrument de survie. Voilà. Ça t'évite le baluchonnage à 6h du matin, quand il débarque dans ta cellule à 6h, qu'il te réveille en sursaut. Si tu n'es pas craintif, c'est-à-dire si tu ne te réveilles pas à 6h moins 5 parce que tu sens qu'ils vont débarquer, ils te prennent en plein sommeil, c'est un coup à faire une crise cardiaque. Donc la peur, c'est pas que tu t'en débarrasses, parce que si tu t'en débarrasses, c'est que tu es devenu fou, si tu n'as plus peur. En fait. Voilà. C'est que tu la raccourcis, tu raccourcis ton temps de peur. Et je vais essayer de ne pas être hermétique. Exemple, tu es agressé dans la rue. Bon, tu as peur et tu réagis. Voilà. Mais tu réagis des fois au bout de 3-4 minutes. Voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir peur, mais réagir dans la seconde. C'est-à-dire que ta peur, tu la maîtrises, mais tu ne la perds jamais, tu la gardes. Voilà. Et c'est le seul moyen à l'intérieur de tenir. Il faut toujours, bien sûr, avoir peur. C'est comme quand on est au volant d'une bagnole, si on n'a pas peur, on se crache.
Quel avenir et donc quel conseil tu pourrais donner à un jeune primaire révolutionnaire en prison, peut-être condamné d'ici peu à une longue peine ?
L'évasion. Je ne peux donner aucun conseil d'autre que l'évasion.
On ne peut pas profiter de la prison.
Si, on peut en profiter. On peut en profiter, mais dans le sens où on peut déjà se faire un bilan, faire un peu le point et se préparer à se battre. C'est-à-dire que ça peut être une espèce de frontière que tu passes, mais il ne faut pas que ça dure. Parce que si ça dure trop longtemps, ça te rend cinglé. Ça te rend cinglé. Et puis les failles et les séquelles sont terribles après quand tu sors. Mais le coup de « je suis enfermé, mais j'ai ma liberté intérieure », c'est du slogan. C'est du slogan. Moi, quelqu'un, c'est comme quand je vois un paralysé sur un fauteuil roulant qui est cassé en 8 et qui me dit qu'il se sent bien, que son handicap, il sait vivre avec. Je sais qu'il bluffe. Mais il a raison de bluffer parce que ce bluff-là permet de tenir. Mais celui qui dit « moi je suis en prison mais mon esprit est libre », je vais pas dire c'est une connerie, mais c'est un placebo.
Sur cette phrase « ne me libérez pas, je m'en charge », t'en penses ? Est-ce que tu crois pas que c'est pas sympa pour les 63 000 qui sont dedans ?
C'est un peu une phrase toute faite et cette phrase elle appartient à Ali. C'est Ali qui a dit cette phrase dans « Parole de détenu », un bouquin qui était sorti. C'est une phrase d'Ali. Et « ne me libérez pas, je m'en charge », c'est aussi un pied de nez à l'administration pénitentiaire. Il ne faut pas oublier qu'un directeur de prison avait dit « je préfère 10 suicidés qu'un évadé ». Donc c'est du domaine de la boutade. C'est du domaine de la boutade. Donc c'est pas du mépris pour les autres prisonniers. Parce que chacun se charge lui-même de sa liberté avec des moyens différents. Il y a la soumission, il y a la délation, il y a l'évasion, il y a la patience, et puis il y a l'intelligence. Beaucoup de gens sont assez intelligents pour écrémer leur peine, parce qu'ils savent nager à l'intérieur de la prison. Parce que justement, ils ont raccourci le temps de peur.
Donc toi, tu penses en fait en prison, il faut bien gérer sa peine, pas faire spécialement plus de vagues que ça, ne pas se laisser marcher sur les pieds, mais pas faire de vagues pour essayer de raccourcir au plus la peine.
Bien sûr, l'écrémer au maximum. Mais on peut faire des vagues, voilà. Mais il faut savoir comment les faire. Un exemple tout simple, moi les premières années de prison que j'ai fait, j'avais pas de parloir. Voilà, j'étais gamin, hein, 18-24 ans, j'avais pas de parloir. C'est-à-dire, ma famille voulait venir me voir, j'ai refusé les parloirs. J'ai refusé les parloirs parce que j'ai de suite compris à l'intérieur de la prison qu'il y aurait une prise sur moi si j'avais des parloirs. Et c'est une époque où le travail était obligatoire. Et j'ai jamais bossé en prison, toujours refusé de travailler. Donc quand on me proposait de travailler que je disais non, on me foutait au mitard. Donc j'étais en but avec le système. Et le fait que l'administration pénitentiaire sache qu'il n'y avait pas de prise, qu'il ne pouvait pas dire si tu n'es pas gentil, tu vas être transféré et demain matin, ta maman, elle ne te verra pas. Hein? Ça ne marchait pas parce que ma maman, elle ne venait pas. J'avais refusé les parloirs. Donc le fait qu'il n'y ait pas de prise, à un moment, l'administration pénitentiaire te considère comme étant potentiellement dangereux. Parce que quelqu'un de dangereux, pour eux, ce n'est pas quelqu'un de violent ou d'ultra-violent. C'est quelqu'un qui est capable de leur dire non, sans violence, sans gros mots, sans rien de mots. Vous allez travailler ? Non. Et ça, ça fait qu'à l'intérieur de la prison, tu vas en fin de peine, mais ils te donnent le minimum, non pas auquel tu as droit, parce qu'il n'y a pas de droit, rien n'est acquis, les remises de peine, c'est pas acquis. T'sais, les gens pensent que tous les ans, on a trois mois comme ça, ils ne veulent pas les donner, ils ne les donnent pas. Voilà. Mais ils gèrent le truc en disant, bon, on va lui filer ces trois mois par an, mais pas de conditionnel, pas de petits avantages d'aménagement de peine. Et quand tu sais, toi, que tu vas aller en fin de peine, l'administration pénitentiaire te laisse tranquille. Quand tu dis, écoute, moi je vais en fin de peine, qu'est-ce que tu veux me faire ? Ou même s'ils te mettent au mitard, quand tu dis, bon, le mitard, je peux y aller tout seul. C'est-à-dire, des fois, j'ai dit à des surveillants, écoute, mets-moi un rapport, mais me fais pas chier, parle pas avec moi, mets-moi un rapport, parle pas avec moi. Ah, mais vous allez aller au mitard, mais on y va maintenant. Attendez, faut que je fasse un rapport, vous n'avez pas le droit. Des fois, ils me couraient après dans les couloirs, en disant, il va où ? Bah, il veut aller au mitard. Hein, il dit, mais non, hein, venez notre main, calmez-vous, venez. Tu vois ? Donc, il y a des bras de fer. Mais si tu les fais dans la violence avec eux, dans la confrontation directe, t'es baisé, faut les prendre à leur propre jeu.
Ça peut être un conseil.
Ce qu'il faut, c'est éviter de leur montrer tes faiblesses. Si t'as peur des araignées, si t'es agoraphobe, je sais pas comment on appelle ça, il faut pas le dire, parce que si jamais tu leur dis que t'as peur des araignées, le lendemain ils t'en mettent une dans ta cellule. Donc faut leur dire, moi j'aime beaucoup les araignées, je les mange.